Évidemment, la dernière fois. On peut l'avancer peut-être. Voilà. La dernière fois, nous avons au fond décrit un peu l'arrière-plan qui nous aidera à comprendre davantage maintenant ce que nous dirons ce soir et puis le soir du 15 décembre, je crois, prochain. Pardon. 14, vous avez raison. Donc, pour rappel, on va redresser, rebrousser un petit peu ce qui est nécessaire pour instruire ensuite le propos qui suit. Il faut savoir que lorsque Mohammed, que nous appelons Mahomet, n'est-ce pas, c'est la latinisation du mot arabe Mohammed, commence à sa prédication et se présente comme le successeur des grands prophètes antérieurs et le sceau de la prophétie, tout en revendiquant l'héritage biblique et évangélique depuis Adam jusqu'à Jésus, le Issa coranique. Ceci est un point sur lequel je vais m'arrêter en particulier, du Issa coranique, qui est évidemment, qui n'a aucun rapport avec le Jésus chrétien, le Jésus de l'Évangile. Mohammed affirma restaurer donc le message biblique dans toute son intégrité en abolissant toutes les altérations commises volontairement par les descendants dégénérés de discipline, des disciples, pardon, de Moïse et de Issa. Finalement, il va annexer Abraham comme ancêtre généalogique et comme fondateur avec son fils Ismaël de la Kaaba. Il présenta aussi ainsi plutôt l'islam comme insufflant à l'éternelle et immuable religion la pureté resplendissante qu'elle devait avoir au temps abrahamique. La voie était ainsi ouverte à la définition d'une nouvelle communauté. Le mois dernier, lors de notre rencontre, j'ai commencé mon propos en vous précisant que ce qui caractérise en particulier ce monothéisme appelé islam, c'était la morale juridique qui est propre à l'islam, donc une morale religieuse de type juridique, de type légaliste. Et surtout, la valeur de la communauté, de la Oumma, le peuple islamique, est une caractéristique tout à fait, comment dirais-je, définissant l'islam. Donc, la voie était ouverte à la définition de cette nouvelle communauté. En effet, depuis lors, les musulmans considèrent leurs prophètes et ceux qui le suivent comme les véritables disciples de Moïse et de Jésus. Tandis que les juifs et les chrétiens de tous les temps n'ont plus aucun droit à se réclamer de leurs prophètes et de leurs révélations respectives, car ils y ont été infidèles, c'est ce que dit le Coran. Et je répète, comme je le répète chaque fois à mes étudiants, il ne faut jamais oublier que dans le Coran, c'est Dieu qui parle. C'est Allah en personne qui parle. Et le Coran n'est en fait que l'incarnation de cette parole divine descendue concrètement sur le prophète et devenue Coran. Donc, ils y ont été infidèles et ils ont même falsifié les révélations qui leur ont été descendues. Deux choses qu'on peut signaler, parce que toujours on est limité par le temps, comme vous savez. Deux éléments qui méritent qu'on s'attarde dessus. C'est l'expression qui est toujours, on l'entend, que l'islam, au fond, est un monothéisme, comme l'est le monothéisme dit du christianisme. Ceci demande quand même explicitation. Les deux aspects qui sont les plus marquants dans ce cas-là, ce serait évidemment ce que j'ai signalé à l'instant, la personne de Jésus. Donc, il faut préciser que le Coran, quand il parle de Jésus, indiqué comme un des plus grands prophètes de la Bible, il lui trouve un nom à part. Il n'est pas utilisé par les chrétiens d'Orient. Il n'est pas utilisé par les juifs. Il n'existe que dans le Coran. C'est le mot Aïssa. Aïssa, c'est le Jésus coranique. Il faut bien comprendre. Et on va voir comment les choses sont abordées dans le Coran. J'insiste sur cet aspect parce que, évidemment, plus tard, je reviendrai dessus, si vous permettez une parenthèse, on entend tellement dire, l'islam, le Coran reconnaît tous les prophètes, Moussa, il reconnaît Aïssa, etc. Mais il faut voir s'il s'agit du même Aïssa que le Jésus des chrétiens. C'est ça. Donc le Jésus de l'Évangile est autre chose que le Aïssa coranique. On peut dire que la christologie coranique, d'ailleurs, consiste essentiellement en quatre constantes pour faire court. Donc, quatre constantes présentées dans le texte arabe lui-même, dans le texte du Coran, coranique, sous forme de négation absolue par peur d'associationnisme. C'est la grande crainte tout le long du Coran, c'est le péché d'associationnisme. Que veut dire cela? Ça veut dire associer à Dieu d'autres divinités. Et cela se démarre dès est tangible dès la shahada, c'est-à-dire la profession de foi des musulmans, qui dit je professe, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité que Allah, mais surtout, et là on n'est pas musulman tant qu'on n'a pas prononcé le deuxième chaîne de la profession de foi, et que Muhammad est bien son envoyé et l'envoyé d'Allah. Donc là vous voyez que déjà Muhammad et Allah sont intimement liés. D'ailleurs, une étude du texte coranique va nous donner qu'on n'est pas croyant si on n'a pas d'abord cru. Il y a un verset que Allah fait descendre sur Muhammad où il dit « Vous n'avez pas cru en Allah tant que vous n'avez pas cru déjà, d'abord, à Muhammad. » En Muhammad. Donc ça, c'est cette crainte presque pathologique de tomber dans l'associationnisme. Et d'ailleurs, quand le Coran va, j'allais dire, en vouloir, quand il va faire des reproches aux chrétiens et aux juifs, aux chrétiens, le premier reproche sera évidemment la Trinité, mais cela aussi nous le verrons. Donc, tout ceci, très très cursivement, c'est pour vous dire que pour expliquer pourquoi cette forme de négation absolue dans le texte arabe. Les quatre constantes sont 1. Jésus n'est pas Dieu. 5, 72, 116. Jésus, Aïssa, pardon, devrais-je dire, Aïssa n'est pas Dieu, car il prenait de la nourriture, nous dit le Coran, 5, 75. Aïssa n'est pas fils de Dieu. 2. Aïssa n'est pas fils de Dieu à la 9, 30 et au 19, 34, 35. Troisième constante, Jésus n'est pas troisième d'une triade, la Trinité étant assimilée au polythéisme, aux 4171 et 573. Enfin, la quatrième constante, c'est Aïssa n'a pas été crucifié. Et ceci est très important, car si le Coran reconnaissait la crucifixion, cela entraînerait infiniment de choses qui ne cadrent pas avec le message coranique. Donc, pourquoi il n'a pas été crucifié, comme le dit le Coran au 456 et 355, car c'est indigne d'un grand prophète comme lui. Par là, le Coran s'en prend à trois mystères constitutifs du christianisme en lien direct avec Jésus. 1. La Trinité, au nom de l'absolue unicité divine. 2. L'incarnation, au nom de la transcendance exclusive de Dieu. Ensuite, la rédemption, puisqu'il n'y a pas eu de sacrifice. Cette polémique, au demeurant, qui repose sur une méprise fondamentale, car la Trinité n'est pas une triade, mais exprime la participation mutuelle des énergies divines. Le nombre 3 ne signifiant que l'indication minimale de cette éternelle pluralité interne. Cet aspect-là j'ai pensé qu'il était intéressant pour nous de le rappeler, bien qu'il touche davantage à un aspect de la théologie islamique et sans rapport avec le propos de ce soir et le titre qui est proposé. Donc, mais j'ai pensé qu'il était important de donner ces petits indices sur le texte coranique, car on comprend mieux maintenant l'islam visible et les musulmans. Il n'y a pas de nature du musulman. Ça n'existe pas. On peut trouver chez les musulmans toutes les attitudes possibles. Toutes les attitudes possibles chez l'homme, en général. De l'altruisme à l'égoïsme, de l'affection à l'insensibilité, de la confiance à la stricte hiérarchisation, etc. Mais ce qui est caractéristique de l'islam, c'est la tendance à placer toute chose ou tout acte, si banal, voire si trivial soit-il, sous l'autorité de Dieu. C'est cela, sans doute, qui est la caractéristique fondamentale de l'islam. C'est à la fréquence de l'invocation divine, manifestée en particulier par la formule « au nom de Dieu, Bismillah », répétée en toute occasion, que se juge la piété. Ce qui est proprement islamique, c'est donc la référence éventuelle qui peut être invoquée soit pour justifier l'attitude adoptée en cas de récrimination des partenaires, soit au contraire, pour exhorter soi-même ou autrui. ou encore lutter contre ses penchants dans la seule mesure où ceux-ci sont susceptibles d'apporter un trouble à la communauté. Cette référence peut être, premièrement, le Coran lui-même, théoriquement source indiscutable en tant que parole même de Dieu. Nous avons vu, et nous verrons un peu plus tard, le mois dernier, que l'application de la loi telle qu'elle, étant donné qu'elle est ipsissima verba dei, fait que si Allah a dit dans le Coran « Vous couperez la main du voleur », eh bien, 14 siècles plus tard, eh bien, on coupe la main encore en Arabie Saoudite, par exemple, la main du voleur. Hein, et puis d'autres pays déclarés de régime islamique. Donc, le Coran lui-même, théoriquement source indiscutable en tant que parole même de Dieu. Deuxième source, l'exemple du prophète, transmis par les traditions, qui se dit hadith, le mot, dont l'ensemble forme la sunna, d'où le mot sunnite. Par là, vous avez compris que ce que je dis au sujet de cette umma elle-même, cette communauté-là, concerne les sunnites. Les chiites ont une voix particulière qui comporte aussi des points de vue intéressants à étudier, mais qui se séparent. En tout cas, c'est le même Coran. Pour ça, il n'y a pas de doute. C'est le même Coran qui vaut et pour les chiites et pour les sunnites. C'est seulement au niveau des hadiths et de l'application de la sunna que les choses diffèrent. Donc, et non seulement par les hadiths, l'exemple du prophète, mais aussi par sa biographie, la sira. On dit sira, S-I-R-A, c'est tout simplement la biographie, bien sûr hagiographique, assurément, et qui s'est imposée dans de très larges couches de la population musulmane comme modèle incontournable. Enfin, troisième source aussi, troisième référence pour le musulman, ce sont les règles juridiques du fiqh, c'est-à-dire le droit islamique, élaborées à partir de la loi révélée par Dieu dans le Coran. C'est en principe l'ordre hiérarchique qui doit être suivi, mais en fait, chez le croyant ordinaire, c'est le plus souvent cette dernière, c'est-à-dire la réglementation traditionnelle légaliste, qui fait autorité. Par exemple, le cas de la peine pour punir les voleurs, c'est dans le Coran. Mais par contre, allez, la lapidation de la femme adultère, ceci se trouve dans le hadith, c'est pas dans le Coran. Et tout simplement, c'est l'exemple de Muhammad à qui on présente une femme adultère juive. Il est à Médine, le tout se passe dans l'état de Médine, dont il est l'autorité suprême, et on présente cette femme adultère et il pose la question quels sont les châtiments de sa communauté. Et on lui dit, en judaïsme, la lapidation. Alors, il prend une pierre et il commence la lapidation. Donc, la femme, alors que nous dit le hadith, que les personnes de sa communauté, les membres de la communauté juive, lui ont dit, mais on peut arranger différemment. Ne pas appliquer la peine prévue par la loi mosaïque et par l'exemple du prophète. Donc, bien sûr, ici, il y a une analyse longuissime qu'on pourrait faire. Des études ont été faites pour ce genre d'études comparatives. Ce soir, ce serait un peu long, de s'étendre, mais c'est pour vous donner un exemple de ce qui est suivi par la Oumma islamique suivant l'exemple du prophète lui-même. Donc, les deux autres, donc comme je vous ai dit, ils suivent en général les règles juridiques, c'est-à-dire les traités du fiqh et ce qui est recommandé. Il y a quatre écoles de juridiques en islam, comme vous savez, Shafi'ite, Hanafite, Malikite et Hanbalite. La plus sévère et la plus littéraliste est sans doute la Hanbalite. Malheureusement, c'est celle sur laquelle s'appuie l'acharisme, l'école théologique, l'école doctrinale de l'islam sunnite. Donc, les deux autres références interviennent en tant que fondement de la règle juridique, c'est-à-dire et le modèle du prophète et Hadith et Sira, ainsi que le texte coranique, vont servir uniquement comme fondement de tout ce qui se trouve comme dans la règle juridique elle-même ou sont invoqués comme justification a posteriori. Toutefois, les textes peuvent être perçus différemment. Ils peuvent aussi être d'orientations diverses, parfois même contradictoires, soit entre eux, sunna contre Coran, soit même à l'intérieur du corpus de tradition. Les règles courantes apparaissent comme une sélection à laquelle le croyant peut se soumettre, ou contre laquelle, au contraire, il peut réagir au nom d'un retour aux sources. On a vu, surtout auprès des communautés islamiques qui fixaient en terre non islamique, on a vu un retour qui est, qui est bien au-delà de ce qui est requis par la loi elle-même. Donc, il y a un dépassement aussi qui est possible de la part des musulmans, de certains musulmans, et qui va dépasser le texte lui-même. Je vais prendre successivement deux approches pour davantage de clarté dans mon propos. D'abord, approche collective puis individuelle. En prenant sur ce point l'exemple caractéristique et révélateur de la question de la position de la femme. Première approche collective, dans le mouvement contemporain de montée de l'islamisme, l'affirmation d'identité se fait simultanément à deux niveaux. Premier niveau, un geste significatif, ensuite une justification scripturaire de celui-ci. Lorsque des pays se sont déclarés sous régime islamique, ils ont immédiatement mis en avant l'application des peines légales, le hudud, notamment l'amputation de la main que j'ai évoquée à l'instant, la main du voleur, au nom du verset coranique qui ordonne au voleur et à la voleuse trancher les mains en récompense de ce qu'ils se seront acquis et en châtiment de Dieu. 5.38. Lorsque des musulmanes, veulent souligner leur spécificité, elles adoptent une tenue vestimentaire enveloppante, se réclamant des versets dits aux croyants. Il n'y a que deux dans le Coran qui touchent de loin à cette histoire de voile et tenue vestimentaire. Dit aux croyantes qu'elles rabattent leur voile, khumour, sur leur gorge, au 24-31. Et deuxième, nul grief aux femmes atteintes par la ménopause et n'espérant plus mariage si elles déposent leur voile. Cependant, s'abstenir est toutefois un bien pour elles. Toujours au 24-60. Et enfin, Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de serrer sur elles leur voile jalabib, d'où le jilbab maintenant. Cela sera le plus simple moyen qu'elles soient reconnues, c'est un signe distinctif, reconnues et qu'elles ne soient point offensées. 33-59. Là, je m'arrête à la parole coranique qui ordonne au prophète de dire à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants. Hein? Donc, c'est limité au départ aux épouses et aux filles pour qu'on les réclame. Nous reviendrons dessus parce qu'il y a eu une grande controverse entre musulmans eux-mêmes qui s'est levée assez tôt dans le temps, dans les années 70 et 80, en Égypte en particulier. Nous reviendrons dessus. Au plan des institutions, la forme la plus remarquable d'affirmation d'islamité est sans doute l'apparition dans les années 70 des banques islamiques et autres organismes islamiques de crédit, dont la raison d'être est le respect dû à l'interdiction coranique du prêt à intérêt, à riba, dans le Coran. Dieu a déclaré licite, dit le Coran, Dieu a déclaré licite le commerce et déclaré illicite le riba, 2.275. Cette interdiction concernait déjà les juifs selon le Coran, et de ne pas l'avoir respectée est une des causes de leur malédiction. Ils sont maudits pour n'avoir pas respecté cette interdiction divine. Car ils considèrent le riba comme de l'usure. Ces institutions ont assez vite débordé le cadre des circonstances particulières qui les avaient fait naître dans les pays arabes intéressés directement ou indirectement par la production pétrolière. Elles se sont d'abord répandues dans l'ensemble des pays islamiques, puis à la suite de l'Angleterre, qui a commencé dès 2003, on voit actuellement des banques européennes classiques ouvrir avec des comptes islamiques, spécifiquement islamiques, et passer avec leurs déposants des contrats spécifiques sur les modèles empruntés aux banques islamiques. Ça s'est fait sous l'autorité de Madame Lagarde en France. Si la motivation des banquiers occidentaux est purement professionnelle, celle des déposants reste, comme lors de l'apparition de ces organismes, explicitement d'ordre éthique. C'est même ce caractère éthique qui est mis en avant pour affirmer que les formes islamiques de finance peuvent très bien ne pas concerner seulement les musulmans et que, de toute façon, l'élargissement de la législation afin de la rendre, selon l'expression devenue officielle, charia compatible, constituerait une application exemplaire du concept de laïcité positive. Donc, il y a aussi un encouragement des sociétés dites laïques en Europe et en Occident en général. Ce processus est clairement lié au mouvement de renouveau islamique. Quand je dis renouveau, il ne faut pas voir nécessairement une consonance positive. Renouveau, pour eux, c'est on change, c'est ça. Donc, mouvement qui a lui-même à la fois favorisé la révolution iranienne, donc la révolution iranienne s'est dite, c'est proclamer du renouveau islamique. Hein. Donc, de 1979, est reçue d'elle en retour une impulsion décisive. Or, ce n'est sans doute pas un hasard si c'est l'Iran qui, le premier, à la suite de sa révolution de 1979, a progressivement islamisé l'ensemble du système bancaire. À partir de 1986, une grande partie de son secteur bancaire a même été insérée dans le cadre de la structure économique du gouvernement. Et sur ce point, l'Iran chiite a été suivi par deux pays sunnites, le Pakistan en 1984, puis le Soudan, et ce en dépit des tensions très fortes existant entre ces deux branches de l'islam. En effet, ces tensions ne sauraient être considérées comme marginales, car on voit que l'Arabie saoudite, qui considère pourtant que le Coran est par lui-même sa constitution, met la partie internationale de l'économie pétrolière et du droit commercial qui y est liée en dehors du domaine de la charia, justifiant cette sélection par le verset coranique « Ô vous qui croyez, remplissez les engagements pris. » 5.1. Il convient ici de se demander si la confusion politico-religieuse attribuée à l'islam est constitutive, tout comme est constitutive la négation de toute distinction entre le sacré et le profane. En réalité, comme je vous ai dit le mois dernier, le cas de l'islam ne se réduit pas au trinôme évoqué religion, état et vie, c'est-à-dire din, daoula et dunya. C'est la nature même du texte fondateur qui pose un problème. Comme la Torah, le Coran contient des préceptes, des prescriptions, individuelles et collectives, qui sont conçus comme la parole de Dieu elle-même. On peut tomber même dans des... Pour vous donner un exemple, une étudiante mienne m'avait dit un jour, de l'université publique, elle était donc arabe et musulmane, que sa tante, une vieille dame de 85 ans, venait de perdre son époux, donc, et tout de suite, elle applique les prescriptions islamiques qui obligent l'aide, on appelle ça, c'est-à-dire il oblige la femme à demeurer chez elle 40 jours pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte, puisque l'islam est très attaché à la paternité légale, licite. Il faut que ce soit halal. Et pour cela, il faut vérifier que la femme, l'homme en mourant, n'a pas laissé une femme enceinte, lequel enfant peut être réclamé par n'importe qui et la femme déclarée comme femme adultère. Donc, on reste une femme qui perd son époux, doit garder la maison pendant 40 jours et après elle peut sortir n'ayant pas comme une veuve ordinaire parce qu'elle a prouvé qu'elle ne porte pas d'enfant du défunt. Mon étudiante me dit, j'ai dit à ma tante, mais enfin tante, vous qui veut imaginer que vous êtes enceinte? Vous avez mis au monde 8 enfants, vous avez 36 petits-enfants, une dizaine de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants. Qui va imaginer? Il faut sortir. Elle voulait la sortir pour la promener, la faire prendre un peu l'air. Et la femme lui répond, non, Dieu l'a dit. Fini. Donc, c'est pour vous donner un peu, c'est vous expliquer un peu qu'il y a aussi cette espèce de qu'il y a un esprit qui est modelé également par tout cet arsenal scripturaire, hein, qui est celui de l'islam, de l'islam officiel. Donc, le fondamentalisme peut se trouver partout. Ça, nous sommes mille fois d'accord. Souvent, Monsieur Tariq Oubrou me l'a lancé à Bordeaux, il était très fier de lui, il m'a dit, mais il y a les fondamentalistes chez les chrétiens. D'accord ? Mais un fondamentaliste, Et c'est pour ça que je tiens à vous donner ma réponse à M. Tarık Oğlu dans ce colloque où il s'est présenté avec un bataillon de jeunes musulmans et de jeunes musulmanes, tous qui l'ont accompagné. Ils sont arrivés avec lui, ils sont partis avec lui. Donc, il participait à ce colloque sur la laïcité. Ça aussi, je peux vous raconter autre chose qui s'est passé pendant ce colloque. Mais en particulier, je m'arrête pour vous donner la réponse à M. Oğlu, qui me dit « Mais chaque religion a ses fondamentalistes. » J'ai dit « Oui, mais un fondamentalisme chrétien ne pourra se réclamer que de faits de tradition. » Il pourra se figer sur certaines pratiques religieuses ou s'enthousiasmer pour l'ordre chrétien médiéval, mais il ne pourra se réclamer d'un texte fondateur. Jamais. Pas d'un texte fondateur. Au contraire, un juif ou un musulman ont dans leur texte sacré même un ensemble de prescriptions qui donnent le sentiment de disposer matériellement d'un manuel qu'il n'y a qu'à appliquer. Je l'ai vu 1000 fois. J'entends par appliquer la mise en pratique des préceptes concrets et immédiats, littéralement donnés, ce qui n'est pas le cas de l'Évangile. C'est la différence entre un monothéisme qui est basé sur une révélation avec une loi, et un monothéisme basé sur une révélation avec loi. C'est le cas du judaïsme et de l'islam. Ce sont des révélations comprenant une loi, ce que la révélation chrétienne a laissé dans l'Ancien Testament. La comparaison avec le judaïsme est utile parce que dans cette religion où existe pourtant un fort courant libéral, le fondamentalisme est aussi très puissant. On voit même quotidiennement des juifs élevés dans la mentalité libérale découvrir les délices d'un retour au fondement d'un texte appliqué à la lettre. Je l'ai vu. J'ai eu un doctorant qui m'est venu de l'université hébraïque de Jérusalem. Et il m'a dit, il a découvert ces délices d'un retour au fondement tardivement. À plus forte raison dans l'islam, dont la majorité des adeptes appartiennent ou viennent du tiers-monde, une telle séduction peut s'exercer, surtout après les désillusions de l'occidentalisation. Beaucoup de pays islamiques ont connu la résurgence du fondamentalisme. Pardon, je voudrais ajouter une petite parenthèse sur le fondamentalisme juif comparé au fondamentalisme islamique. J'ai parlé aussi, je vous ai dit, qu'en regard du fondamentalisme juif, il y a un judaïsme libéral. On a vu dans, par exemple, vous allez à Jérusalem, à Tel Aviv, à Yafa, etc. Eh bien, vous pouvez tomber sur une synagogue libérale, où même le rabbin est une femme. Et même, elle peut plaisanter. Oui, je sais, rabbin femme, c'est vraiment pas un bon boulot pour une femme. Elle plaisantait. Mais elle était là. Elle était rabbin de cette synagogue libérale. Un peu plus loin, 2 ruelles plus loin, on tombe sur une synagogue de fondamentalistes, tous, avec la tenue adéquate. Et eux, évidemment, on ne plaisante pas. Donc, cette chose, on ne peut pas la voir dans un pays islamique. Je n'ai jamais vu, j'ai connu beaucoup de pays islamiques. J'ai vécu parmi eux, que ce soit parmi l'islam africain noir, que ce soit parmi l'islam du Moyen-Orient, plusieurs pays. À aucun moment, je n'ai pu rencontrer une seule mosquée qu'on peut qualifier de libérale. Pas une seule. La mosquée, c'est la mosquée. C'est tout. C'est là qu'on va, on prie, mais elle n'a pas, il n'y a pas, ni à côté, ni en face, ni nulle part, quelque chose qu'on puisse ou qualifier de mosquée libérale. Donc c'est une chose qui n'a pas été permise ni autorisée par l'islam officiel. C'est ça. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Qui sait? Mais là, serons-nous de ce monde seulement pour le voir? Donc beaucoup de pays islamiques ont connu la résurgence du fondamentalisme, notamment après l'épisode du wahhabisme. J'ai voulu vous parler aussi un peu du wahhabisme. Bien sûr, là, je suis désolée de vous dire un petit peu de chaque chapitre, mais ce sont des mots qui courent et que l'on lit dans la presse. On ne sait pas ce que c'est. Le wahhabisme, c'est ce mouvement né au désert d'Arabie à la fin du XVIIIe siècle. Il a pour objectif de restaurer dans toute sa pureté la religion islamique à partir du rite hanbalite. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, des quatre rites ou écoles juridiques islamiques, la hanbalite était la plus rigoriste, et la plus littéraliste. Donc, à partir du rite de l'école hanbalite, le wahhabisme, au XVIIIe siècle, vise à restaurer la pureté, toute sa pureté à la religion islamique. Le plus littéraliste des quatre rites, donc, reconnu dans l'islam sunnite, va s'appliquer dans tout le territoire qui sera occupé par les wahhabites. Son fondateur, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, c'est pour Wahhab, d'où wahhabisme, mort en 1787, avait acquis la conviction que seule une réforme puritaine pouvait affranchir la foi ancestrale de ses innombrables altérations et la restaurer dans son éclat d'autrefois. Ainsi, par exemple, le culte des saints prohibés, par exemple. Au XIXe siècle, les wahhabites donnèrent du fil à retordre à la sublime porte ottomane. Plus près de nous, c'est en s'appuyant sur ce mouvement que Ibn Saoud partit à la conquête de l'Arabie et des villes saintes, la Mecque et Médine. Le mouvement, au moins en ce qui concerne ses idées et ses principes d'intransigeance, a gagné de nombreux partisans. Les frères musulmans, fondés en Égypte en 1928, lui sont apparentés. Et également l'association des oulémas d'Algérie, militant avant l'indépendance, s'appuyait sur les idées wahhabites pour partir en guerre contre les marabouts et les confréries et tenter de réformer l'islam algérien. Somme toute, Ibn Saoud et Mustafa Kemal ont ceci en commun. Ils ont essayé, chacun à sa façon et à la même époque, de faire de leur pays des nations au sens actuel du terme. Mais alors que Kemal, voyant dans l'islam l'obstacle principal à la modernisation, a sécularisé la vie politique à grands coups de réforme, Ibn Saoud, lui, a pris appui sur un islam pur et dur, sur le Coran, qui est l'expression la plus authentique de l'arabisme. Le système politique de l'Arabie saoudite s'est façonné au fur et à mesure de la formation de l'État, mais son inspiration wahhabite, en le ramenant aux sources de l'islam, en a fait un dérivé très direct du vieux système califal, une, je l'appellerai, théocratie bédouine. La constitution saoudienne est très différente des textes constitutionnels occidentaux ou encore de ceux que les pays arabes se sont donnés par la suite. Elle ne cherche pas à sacrifier à la mode démocratique, présente partout, sans complexe. Un régime de monarchie et théocratique est proclamé. Concrètement, c'est une constitution qui mêle, à la façon des traités de droit islamique, les règles constitutionnelles et les recettes de gestion administrative. Il est indiqué en outre que la source du droit est religieuse. Le mot de démocratie ne figure dans aucun texte constitutionnel saoudien. Il constituerait d'ailleurs, dans la perspective d'un retour au pur islam, un anachronisme. En revanche, on y trouve très normalement signalée la consultation, la shura, qui est conforme aux plus anciennes traditions islamiques et que prévoit le Coran au 359 et au 42-38. Notons que les intégristes d'aujourd'hui ne se privent pas d'assimiler la shura à une pratique démocratique. J'ai rencontré aussi, à l'université publique, parmi mes étudiants, qui vient m'expliquer que l'islam a inventé, il est à l'origine de la démocratie. Seulement, elle s'appelait shura. Et elle a été développée et élaborée par la suite, par le reste du monde. Il ne faut pas se laisser abuser. Quelle que soit la qualité de l'application, de la consultation, la shura, seule l'opinion du chef prévaut. Seule l'opinion du chef prévaut. En effet, il n'est pas du tout question de décision prise à la majorité, attention, et de toute façon, les croyants doivent d'abord chercher à savoir si la solution de leur problème ici-bas n'est pas donnée dans la loi elle-même et ne consulter entre eux qu'ensuite. Donc on vérifie d'abord la conformité de la solution trouvée dans les textes juridiques, si c'est halal, si c'est shar'i, et ensuite on se consulte entre nous pour voir qu'est-ce qu'on retient de ceci et qui soit le plus conforme au texte. Vous voyez donc la pratique de cette shura, dite démocratie, et primitive en islam, eh bien, n'a pas en aucune manière, d'aucune façon, n'a de relation avec la démocratie des pays modernes et à plus forte raison la démocratie grecque des anciens. On sait qu'au moment des indépendances, des volontés de laïcisation sont apparues. Ainsi, par exemple, Atatürk en Turquie, les Pahlavis en Iran, le roi Daoud en Afghanistan. Qu'en est-il advenu? Tandis que le premier pays souffre d'une fièvre islamiste, après que l'ère kémalien n'a duré que 13 ans, il faut rappeler. Donc, quand la Turquie et les admirateurs de la Turquie nous disent « mais c'est laïque », je dis non. La laïcité à la Turque a duré 13 ans. Très vite après, et surtout, maintenant, avec le parti de Erdogan, ça fait bientôt 23 ans que la Turquie n'est plus laïque du tout. Donc, les deux autres ont basculé, donc j'ai parlé de la Turquie, eh bien, les deux autres ont basculé, c'est-à-dire Iran et Afghanistan, brutalement dans des régimes religieux. Le nationalisme arabe a lui aussi engendré des mouvements laïcisants et socialistes, comme par hasard. En Égypte, Nasser s'est appliqué en vain à éliminer les frères musulmans. Son successeur Sadat, comme vous savez, a été leur victime. Et le président suivant, Moubarak, a continué à être aux prises avec eux. Et ils ont même triomphé un moment avec Morsi, frère musulman, avant le retour du balancier avec le général Al-Sisi. L'Irak et la Syrie ont été dominés par l'idéologie du Baas, la renaissance, ça signifie renaissance, Baas, renaissance, résurrection, dont le principal fondateur est un grec orthodoxe appelé Michel Aflaq. Michel Aflaq n'a pu vraiment extraire l'islam inséparable de l'arabisme. Lui-même est mort musulman. Le Baas n'a d'ailleurs jamais été un parti de masse. Quant au FLN algérien, dès son arrivée au pouvoir en 1962, il a refusé la nationalité algérienne à la majorité des chrétiens qu'il avait soutenus durant la guerre contre la France. On sait aussi qu'un sujet marocain ne peut pas être chrétien, mais juif, oui. De toute façon, pour ce qui est des États membres de la Ligue arabe, à l'exception notable du Liban, jusque quand, même les régimes laïcisants ont fixé l'islam comme religion officielle ou comme religion des chefs d'État, dès la Constitution. À Damas, Hafez al-Assad a dû, sous la pression des oulémas sunnites, revenir sur son projet de supprimer de la Constitution de 1973 l'appartenance confessionnelle islamique du président de la République. En 1973, avec mon époux, nous avons assisté à cette affaire, on peut dire, que Hafez al-Assad, tout dictateur, tout, comme l'appelait monsieur, comment s'appelle, pardonnez-moi, j'ai des trous de mémoire pour les noms propres, celui qui a été le ministre des Affaires étrangères un temps, et socialiste, le fils d'Antiquaire, là on peut ça me revient, Fabius, merci monsieur. Donc monsieur Fabius traitait Assad de boucher de Damas, n'est-ce pas? Oui, n'empêche que le boucher de Damas n'a pas gagné pour la cause de la laïcité de son pays le jour où il a dû revenir sur le projet de supprimer la confession du président de la République qui soit islamique. Si les détenteurs du pouvoir ne sont pas forcément religieux au sens de pratiquants, le pouvoir, lui, reste confessionnel au profit de l'islam. Cette clarification me semblait importante à faire lorsque on ne voit les choses que depuis la France et depuis surtout les renseignements qui nous sont donnés, l'information qui nous désinforme tellement, qui est la presse courante et ordinaire. La situation politique des pays islamiques est commandée par la disparité entre ces diverses tendances. L'Arabie saoudite prétend incarner l'islam originel et l'exporter grâce aux généreux subsides qu'elle distribue dans le monde entier. Je l'ai vu s'installer entre 80 et 84 dans les pays du Sahel, et en particulier au Sénégal, où l'islam est confrérie, donc encore plus fragile et encore plus littéraliste, plus fondamentaliste. Donc ils se sont ils distribuaient des subsides et ils gagnaient beaucoup en construisant des mosquées, beaucoup de mosquées et des écoles coraniques avec. Alors que dans la Médina, la moitié de la population dakaroise vivait dans des bidonvilles. Le royaume marocain garde au souverain son titre de imam. Imam, c'est le guide. On dit imam de la mosquée, c'est-à-dire celui qui guide la prière dans la mosquée. On y dit imam, et non pas imam, comme certains le prononcent. Deux M, comme maman, donc imam. Il a imam, iman veut dire la foi, il ne faut pas confondre. Donc, le royaume marocain garde au souverain ce titre de imam, et l'influence occidentale, d'ailleurs pas seulement de imam, mais aussi le titre de commandeur des croyants que porte le roi du Maroc. L'influence occidentale donc se fait sentir dans quelques pays autorisant l'existence d'une opposition comme la Jordanie, beaucoup moins maintenant, ou officiellement laïque comme la Syrie. On sait ce qui se passe depuis bientôt 4 ans. Donc la Syrie, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie ont recouru à certaines normes occidentales pour combler les vides laissés de fait par la législation coranique, laquelle ne traite avec précision que des points mineurs comme l'héritage, le témoignage, le partage du butin du jihad, et ignore des points capitaux comme la production et l'échange des biens. Ces recours sont contestés par les islamistes. Plusieurs États dotés de régimes parlementaires, baptisés République islamique, l'Iran, le Pakistan, le Soudan, la Mauritanie, l'ex-Libye de Kadhafi, ont éliminé toute forme de législation occidentale au profit de la charia. Pour conclure sur ce point, je rappellerai ces traits doctrinaux fondamentaux. L'islam est essentiellement une religion légale, légaliste. Rien n'est laissé à l'arbitraire ou à l'initiative du fidèle. Le fiqh, au droit islamique, embrasse donc l'ensemble des obligations de la charia que la charia impose aux musulmans en sa triple qualité de croyant, d'homme et de citoyen d'une théocratie. Il en résulte qu'un musulman ne peut se soumettre de bon gré à une loi non islamique. C'est le problème actuellement de toutes ces minorités répandues en Occident, en Europe et en France en particulier, qui ne peuvent pas se soumettre de bon droit à une loi, ils n'ont pas le droit, à une loi non islamique. Il doit tout faire pour obtenir un régime dérogatoire conforme à sa croyance ou pour s'emparer du pouvoir, tout simplement. C'est pourquoi, et ceci est en toutes lettres, c'est dit dans les fondamentaux de l'islam. C'est pourquoi tant que l'islam reste islam, c'est-à-dire tant qu'il voit dans le Coran la parole matérielle de Dieu, son intégration dans un pays tel que la France ou ailleurs relève de l'utopie. D'où l'intérêt de privilégier l'individu musulman sur sa communauté. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer le mois dernier. Je vous ai parlé d'une seconde approche. J'espère que j'ai le temps. Où est-ce qu'il est le... Monsieur le chanoine, j'ai le droit de continuer un peu? C'est un peu long? Je peux? Donc, je vous ai parlé de la seconde approche. Je vous ai, au départ, j'ai voulu vous présenter deux approches, comme je vous ai dit. Une collective, je viens d'en parler, et l'autre approche individuelle. J'ai choisi l'exemple de ce qui est le plus visible pour nous qui connaissons rien de l'islam et des musulmans. Le titre que j'ai voulu, c'était « Islam et musulmans », si vous vous souvenez, pour notre causerie ce soir. Donc, cette seconde approche, elle est individuelle. J'ai pris l'exemple de la question de la position de la femme. Commençons d'une façon très générale par l'image schématique que donne de la femme la conception traditionnelle, port de vêtements enveloppants, éventuellement d'un voile, protection vis-à-vis de l'extérieur, qui peut prendre la forme de la réclusion. Statut de mineur pour plusieurs points, une femme est mineure pour plusieurs points, témoignage, vote sous couvert du mari, un témoignage d'homme vaut deux femmes pour un témoignage d'un homme. Donc, et également pour la répartition de l'héritage, etc. Une femme est toujours la moitié de la part de l'homme. Donc, cette protection, ce statut de mineur sur plusieurs points est très frappant. Frappant dans les sociétés, évidemment, qui ne sont pas islamiques. On sait que cette image est contestée par la majorité de la population féminine du monde islamique moderne, mais il ne faut pas oublier aussi que cette situation n'est pas nécessairement due à la seule contrainte masculine. Il est fréquent de voir des femmes qui avaient vécu toute leur vie relativement émancipée, du moins dans leur tenue et leur conduite, et qui, vers la quarantaine ou plus, ont éprouvé, j'en ai rencontré beaucoup en terre d'islam, à plus forte raison ici, donc ont éprouvé le besoin de faire le hajj. Je veux aller faire le pèlerinage. À partir de là, elles reviennent, elle se met en clôture et elle se couvre. Donc, elle revient et de se voiler, de se cloîtrer, etc., dans certains cas, à l'encontre même de l'avis de leur mari, je l'ai vu. Le mari ne demande pas tant, mais c'est ça. Il y a dans cette position de retrait une sécurité psychologique indéniable. Ça, c'est clair. La rupture avec tous les tabous dont l'Occident fait son cheval de bataille, entraîne des réactions d'angoisse face à l'inconnu. Et ce, pour tout le monde. Le repli sur une position traditionnelle et son durcissement est une des solutions possibles, du coup, au regard, par rapport à la femme. Donc, ces solutions possibles, qui sont donc se cloîtrer, se voiler, etc., sont exhortés par le Coran, qui ne leur accorde une dignité que proportionnellement à leur foi et leur croyance et la praxis correspondante à cette croyance. Donc, c'est ce que j'ai étudié dans une analyse des textes islamiques concernant l'émancipation de la femme en islam. J'ai remarqué que dans le Coran, même l'appellation femme n'est pas égale. Il y a un mot pour dire une femme, un mot pour dire des femmes et un mot pour dire femmes sans dignité. Et seulement la croyante est appelée femme et au pluriel nisa, mais niswa, qui est le terme en grammaire arabe, c'est un pluriel, comme on dit, irrégulier. Et donc, on le dit cassé aussi en grammaire arabe, eh bien, c'est un terme qui est attribué aux femmes en général. C'est quand ils ne parlent plus de la femme croyante musulmane. Donc, vous voyez que le Coran est quand même quelque chose d'important dans la vie de cette communauté. Et quand on voit une femme vouloir gagner en dignité, eh bien, c'est un concours qu'elle fait sans doute en allant, en réclamant le pèlerinage et faire ce que l'homme ne fait pas, mais où elle peut le concurrencer en matière de praxis. Dans un cas, donc cette idée, dans un cas comme dans l'autre, cela ne peut pas se discuter. Seule une amélioration des conditions sociales et économiques peut éventuellement agir sur ces mécanismes de défense. Et là aussi, je voudrais quand même vous signaler que l'Arabie Saoudite, qui a attendu 2018 pour permettre aux femmes toutes couvertes, malgré tout, de conduire une voiture, je regrette, mais ce n'est pas un signe d'amélioration des conditions sociales parce qu'ils sont riches. C'est tout. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants. Ceci ne signifie pas cela. C'est clair. En tout cas, cette amélioration, il faut qu'elle soit et sociale et accompagnant la richesse d'un pays musulman, et qui peut éventuellement agir sur ses mécanismes de défense, c'est-à-dire faire changer d'avis et de concours de la femme musulmane. Or, il faut savoir que des pays islamiques comme l'Arabie Saoudite ou bien le sultanat de Brunei sont parmi les pays les plus riches du monde, il faut le savoir. Ils restent cependant sous-développés sur le plan socio-culturel, n'ayant pas participé et œuvré eux-mêmes à la formation de cette richesse. C'est ça qui compte. Ils n'ont pas participé et œuvré eux-mêmes à la formation de cette richesse. Leur cas reproduit celui de l'Espagne du siècle d'or. La manne de l'or et de l'argent d'Amérique affluait au pays, mais le traversait sans qu'il y eût implication ou engagement productif de la part de la population. Je crois en l'histoire. L'histoire est d'un grand enseignement pour nous. Et l'Espagne prospéra économiquement. Elle recevait des richesses et achetait d'autres produits de consommation. Et ce, du milieu du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle. Après quoi, elle sombra dans le sous-développement près de deux siècles durant. Cet exemple pour expliquer le décalage qui peut exister entre niveau économique et niveau socio-culturel est indispensable pour situer la femme dans les pays islamiques. En outre, si ces améliorations ne sont pas accompagnées du raffermissement de la moralité, elles seront de peu d'effet. L'Occident, qui exporte sa production pornographique, ou ses touristes impudents et impudiques, j'en ai vu, porte là-dessus une lourde responsabilité. Vous ne pouvez pas vous adresser à un musulman rigoriste en lui disant « mais ça c'est trop », et il vous répondra tout de suite « mais vous, c'est pas assez ». Allez regarder chez vous, balayez devant vos portes avant de me reprocher le trop. Donc, et ça serait légitime. Donc l'Occident a une lourde responsabilité quand on parle de l'image qu'il renvoie de lui. Il offre une image négative, je veux dire, à des sociétés fragilisées. Nous favorisons l'établissement d'une mentalité victorienne où toute transgression est bienvenue dans l'intimité masculine d'un salon, autour d'un poste de télévision, mais qui est perçue comme une menace violente si elle se généralise et devient accessible à tous, et notamment à la moitié féminine de la population. Ceci, c'est pour vous dire qu'à un moment de sa vie, j'ai un frère qui fut diplomate en Arabie Saoudite. Enfin, il travaillait pour le Quai d'Orsay. Et la description qu'il me donnait de la société saoudienne est vraiment écœurante. Écœurante. L'alcool est interdit, il coule à flot dans les maisons. La femme est couverte quand elle sort, la femme saoudienne est couverte quand elle sort. Ils importent des prostituées d'Allemagne et de, je ne sais, et de Russie maintenant, c'est la mode. Donc là aussi, si la discussion n'est pas possible avec l'attitude fondamentaliste ordinaire, je veux dire, elle est au contraire mise en avant par une tendance à l'évolution, qui, pour affirmer son orthodoxie, se qualifie parfois elle-même de fondamentalisme islamique, rationaliste et spiritualiste. C'est le cas d'un un grand juriste égyptien que j'ai rencontré au Caire, appelé Saïd al-Hashmawi. Cette tendance, concrètement, c'est ça qu'il veut dire, que cette tendance veut rompre avec les stratifications accumulées au cours d'une histoire qui n'a pas toujours été lente et renouer avec la pureté du texte coranique. Voyez, pour cela, ce fondamentalisme islamique, rationaliste et spiritualiste met en avant la discipline des circonstances de la révélation. C'est une discipline en islamologie qui est très importante, qui signifie, qui se dit asbab al-nuzul, mais qui signifie circonstances de la révélation. Là, c'est ce qui est demandé dans cette discipline, pour cela, il a recours à cette discipline, tout comme un autre auteur aussi, Hussein Amin, qui, de façon à, selon eux, donner la véritable portée des prescriptions. Je pense que, tout simplement, pour dire qu'il faut lâcher et ne pas être aussi littéraliste. Mais du fait qu'ils se veulent fondamentalistes, ces auteurs gardent la conception classique de l'inimitabilité formelle du Coran et de son ordonnancement, nazm al-Quran. C'est le caractère pédagogique parfait du livre sacré qui donnera la clé évolutive de l'islam. C'est ce qu'ils pensent. Cette position est capitale, on va l'expliquer un peu mieux. Elle est actuellement la seule, en dehors du fondamentalisme ordinaire, qui ait une certaine audience dans les milieux qui craignent d'abandonner l'islam sous l'influence de l'occidentalisation. S'il vous plaît, là, mon propos ne concerne pas ceux qui acceptent celle-ci sous sa forme la plus répandue actuellement par les médias, de rupture avec toute tradition. On ne parle pas de cela. En se répandant sur un immense territoire, l'islam a été confronté à des traditions culturelles différentes. Parfois, c'est lui qui a triomphé, mais parfois, il a dû composer. C'est notamment le cas pour l'Afrique subsaharienne, dont on a pu dire que ce n'est pas l'islam qui a conquis l'Afrique, mais l'Afrique qui a conquis l'islam. Les traditions culturelles spécifiques ont fait privilégier le hadith. Je cite, « Le meilleur d'entre nous est celui qui a le plus de femmes. » Un de mes étudiants musulmans a protesté avec véhémence qu'il ne connaît pas ce hadith en aucune manière. Le prophète n'a pas pu dire ça. Donc, le meilleur d'entre nous est celui qui a le plus de femmes. C'est pourquoi j'ai photocopié dans le corpus de ce hadith. Donc, c'est bien cela. J'ai le texte arabe pour ceux qui veulent qui veulent contester le hadith. Donc le meilleur d'entre nous est celui qui a le plus de faim. En renforçant le caractère exemplaire, souvenez-vous que tout bon musulman doit suivre et respecter l'exemple du prophète Mohammed. Aussi, la polygamie, en régression dans le reste du monde islamique, est-elle au contraire en extension en Afrique noire? Et actuellement, en Occident, dans la communauté islamique qui s'est installée, dans les minorités. Donc, elle est en extension. Une augmentation de revenus doit se traduire par une augmentation du harem. Tel ouvrier, nous l'avons vu, justifiera sa demande d'augmentation par la nécessité d'épouser une énième femme. Le verset sur la polygamie, au 4.3, est volontiers interprété dans un sens maximaliste. Oui, là, j'ai le temps de donner des exemples, monsieur le chanoine. Donc, ce verset sur la polygamie est volontiers interprété dans un sens maximaliste. Le verset dit, vous pouvez épouser 1, 2, 3, 4. J'ai vu des Sénégalais mourides dire, oui, c'est 9, parce qu'en plus, le prophète avait épousé 9 femmes. Officiel. Hein. Mais le verset ne s'arrête pas à cela. Il continue, il dit 1, 2, 3 et 4, et tout ce que peut atteindre votre bras droit, votre main droite. Donc, concubine à volonté. Donc, il n'y a pas de limitation. Et la restriction qui accompagne ce même verset, n'est pas reçu comme une limitation, mais seulement comme l'obligation qu'il y ait une maison ou une case particulière pour chaque épouse. En revanche, la femme ne subit généralement pas en Afrique noire de marques discriminatoires. Elle n'est le plus souvent ni voilée, ni cloîtrée, ni djellab, ni burqa, ni rien. Ce qui est vraisemblablement dû au véritable culte de la mère qui caractérise cette ère géographique. L'histoire également a également joué un rôle important. Non pas tant à l'époque classique, mais qui a plutôt connu une tendance restrictive vis-à-vis de la femme. Ceci est un peu le grand classique de Razali, 11e siècle, sa somme, la revivification des sciences de la religion, qui passe pour avoir concilié le mystique et le juridique, n'envisage le mariage que sur le plan de l'utilité pour l'homme. Je cite, « La volupté que procure l'acte charnel pousse l'homme à atteindre la volupté éternelle qui est bien supérieure. » Et Razali de citer nombre de saints personnages qui auraient multiplié leur mariage en vue de dompter la chair. Les soins du ménage étant assurés par la femme, cela permet au mari de s'adonner à la science religieuse et aux œuvres pies. Supporter le mauvais caractère de son épouse est une œuvre méritoire. Mais ces avantages du mariage qui permettent de dompter l'âme ne concernent que celui qui est au début de la voie mystique. Voilà. Donc, aussi y a-t-il de nombreuses histoires de soufis qui ont non seulement fait preuve de négligence vis-à-vis de leur famille qu'ils se devaient d'avoir, puisque l'islam déconseille le célibat, c'est très mal vu le célibat. Et il y a plein de soupçons qui pèsent sur votre tête si jamais vous êtes célibataire. D'une façon générale, La prolifération des confréries mystiques à partir du XIIe siècle et leur extension à la quasi-totalité du monde islamique n'ont absolument rien changé à la vision juridique du mariage. Là, j'insiste sur cet aspect. Un mariage en islam, un mariage, c'est un contrat et rien d'autre. Un contrat conclu devant des témoins entre le tuteur de la femme, même pas la femme elle-même, le tuteur de la femme et celui qui la prend comme femme. C'est un... Il y a une dot, il y a de l'argent qui est versé avant, après, ça a un mot technique, mutaakhir, etc. Tout, c'est un contrat. Alors, donc, en contrepartie, je veux dire, ils ne peuvent pas comprendre le mariage en christianisme, puisque c'est quand même un sacrement. C'est un sacrement, et ajouter ces sacrements, ce type de sacrement, à des mystères aussi dans le christianisme, et ça, le christianisme devient une religion absolument insupportable. Donc, j'en prendrai seulement pour exemple la façon dont certains auteurs, on m'a donné 10 minutes si vous permettez, certains auteurs prétendument modernistes récupèrent au nom même du modernisme. Les déviations de l'Occident pour montrer que l'islam n'avait rien à lui envier a été donc par Mohammad Talbi dénoncée à l'envie. C'est ainsi que cet historien tunisien, Mohammad Talbi, reprend le verset tout court, au 2:228, « Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous voudrez. » C'est le verset correct. Pour affirmer que cela signifie « pas de tabou sexuel, tous les orifices sont bons. » Et c'est dans le numéro d'Algérie Actualité, numéro 1302, du 27 septembre, 3 octobre 90. Cela permet à cet auteur, qui se qualifie lui-même de penseur libre, de s'opposer à toute tradition classique, et ce, au nom d'un islam idéal. Conclusion. Il me paraît quand même préférable de laisser en conclusion parler deux musulmans. Voici d'abord ce que l'essayiste algérien Slimane Zeghidour disait il y a déjà 30 ans à propos du retour proclamé à l'exigence d'authenticité. Il est illusoire de prétendre dans un but apologétique ne se référer qu'au Coran et montrer les progrès qu'il a apportés par rapport à l'anté-islam, parce que c'est toujours pareil. Vous parlez à un musulman, est-ce qu'il y a possibilité de seulement qu'on parle ensemble de la critique historique qu'on peut appliquer au texte coranique sans le fâcher. Donc, il vous répond tout de suite, voyez ce que c'était l'anté-islam. Comparez et vous verrez les bienfaits de l'islam. On compare avant. Donc, montrer les progrès qu'il a apportés par rapport à l'anté-islam. Ce qui compte, c'est la situation actuelle. Or, celle-ci doit être d'une part comparée au reste du monde présent. C'est pas moi qui parle, c'est toujours Zeghidour. Doit être comparée au reste du monde présent. D'autre part, remise dans la perspective de la sunna, explicitation nécessaire du livre sacré. La sunna, dans les cas litigieux, l'emporte sur le Coran. C'est un fait indiscutable. Vous avez compris pourquoi ? Parce que Zeghidour désire que un débat s'ouvre. Si on reste dans le Coran, c'est pas possible. Il dit, voilà, la plupart de notre vie, c'est l'application de la sunna, n'est-ce pas ? Or, la sunna, on peut discuter, puisque dans les cas litigieux, de toute façon, hein, c'est la sunna qui l'emporte sur les choses ambiguës. C'est tout simplement ouvrir une porte pour le débat. Deuxième chose, l'égalité entre homme et femme, telle qu'elle est comprise en Occident, n'existe pas en Islam. La femme n'y a pas un statut inférieur, comme c'est le cas pour les juifs et les chrétiens en pays islamique. Mais elle reste mineure. C'est pas un statut inférieur, c'est un statut de mineure. Elle est mineure, c'est-à-dire justiciable d'une surveillance de la part du mari. Il y a des conseils adressés à celui-ci pour bien la traiter, mais peu de possibilités de sanctions pour les excès. C'est pas prévu. La répudiation a des conséquences psychologiques, dramatiques. La femme musulmane vit dans la hantise permanente d'être répudiée, et c'est ce qui la pousse à faire des enfants en permanence, surtout des garçons si possible, et à recourir à toutes sortes de stratagèmes, de la magie, à la ruse, pour garder sa place. Il décrit la société islamique. Dans cette angoisse perpétuelle où vit la femme musulmane, je perçois l'origine. Peut-être du sous-développement dans les sociétés islamiques, parce que cela doit se répercuter sur les enfants, sur les hommes qu'elle éduque. Tout est vrai. Le code de la famille algérienne qui prévoit de priver l'épouse répudiée de son logement, eh oui, est conforme à l'islam. À la limite, l'homme n'est pas tenu de soigner sa femme malade. Rien n'est prévu. Et le code civil syrien qui s'y opposait a été condamné par les oulémas. Mais inversement, la femme n'est pas obligée de faire le ménage de son mari et peut même demander un salaire pour l'allaitement de son enfant, puisque les enfants appartiennent à l'homme. Ce qui veut dire que le lien matrimonial en islam est un lien où l'amour n'existe pas. Bien plus, la polygamie empêche la constitution d'un couple comme tel. En outre, il n'y a pas de patrimoine commun aux conjoints. Le mariage islamique n'est qu'un contrat, comme je vous ai dit, et même un contrat de jouissance, car il existe aussi des choses dans ce sens, des hadiths et une législation. Zeghidour donc cite un traité malikite. Je cite: c'est le contrat par lequel on acquiert l'organe générateur d'une femme dans le but d'en jouir. Rien ne dit en quoi consiste le contrat pour la femme. Si le problème sexuel, et notamment le problème de la femme, est si virulent actuellement, action contre ou pour le voile, etc., c'est parce que beaucoup plus que l'au-delà ou l'exégèse, ou même que le droit ou l'économie, le statut de la femme est le point où s'articule maintenant la survie de la vision islamique classique. C'est parce que la femme musulmane, vivant tout à fait à l'écart de la société musulmane, qui est une société de mâles, a très peu intériorisé la religion islamique, qui reste une religion de mâles. L'enfant et la femme y ont peu de place. À mon sens, c'est parce qu'elle a été écartée de l'islam qu'aujourd'hui, avec l'instruction et l'émergence de la femme dans le champ social, beaucoup de musulmanes sont susceptibles de basculer dans une autre échelle de valeurs. D'abord parce qu'elles ont peu subi le véritable conditionnement de l'islam. Elles ont subi les contraintes des hommes musulmans, mais pas le conditionnement inconscient, profond, émotionnel. Donc, elles peuvent d'autant plus basculer dans un système de valeurs occidental, car celui-ci leur garantit au moins formellement l'égalité de droit avec les hommes et la protection sociale. Pour moi, la femme, c'est une métaphore, mais elle me semble juste, c'est le ventre mou de la Oumma, donc de la communauté. Je pense que j'ai dépensé les 10 minutes autorisées. On arrête ici, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai à vous dire ce soir.
Merci beaucoup.
Il ne faut pas fâcher, monsieur.